Moi, j'ai pas besoin d'une mitraille au casseur oriental. J'ai reçu totalement ce que
tu as dit. Moi, j'ai une combattie au cassandage, en combinant les deux, de mes prédisants, trouver une solution par rapport à ça.
Bienvenue à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Les autorités nationales de la santé estiment que la poliomyélite en RDC a pris des proportions inquiétantes avec une résurgence des cas dans plusieurs points de la RDC. Depuis le début de l'année, des cas de paralysie consécutive au coronavirus sauvage ont été enregistrés. Selon le ministre de la Santé, Victor Macoing, 50 ans ont été répertoriés dans la province du Cassé occidental, 9 dans le Bandundu, 3 pour le Katanga et 1 cas dans le Sud-Kivu. D'autres nouveaux cas suspects sont signalés dans la cité de Badolis et Molégbé dans l'Équateur et à Kukus dans le Bandundu. La maladie fait également des ravages dans les pays limitrophes comme au Congo voisin où le polovirus atteint même les adultes. Cette maladie infectieuse très contagieuse se transmet facilement par contact humain, essentiellement par voie oro-fécale, via l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. Il n'existe pas de traitement curatif, seules des mesures préventives sont applicables. À votre avis, quel comportement adopter pour lutter efficacement contre cette maladie qui rend infirme? Nous avons invité pour vous le docteur Chembélé, il est coordonnateur national du programme Élargie de vaccination. Pierre Lamedi, Titine Poussou et Nicole Ngaka sont à la réalisation de cette émission. Mini Kindou à la mise en onde et Marie-Chantal Lumba à la présentation.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
En attendant bien sûr l'arrivée de notre invité, le docteur Chembélé, qui est coordonnateur national du programme élargie de vaccination, nous allons débuter cette émission avec nos auditeurs. Plusieurs auditeurs sont au bout du fil. Ils ont composé le 081-890-6315, et vous aussi, si vous êtes en train de nous suivre pour cet instant en FM ou sur www.radiocapi.net, il suffit aussi pour vous de composer ce numéro et ce sera pour nous un plaisir de pouvoir vous écouter et savoir qu'est-ce que vous pensez, quelles sont vos propositions pour lutter efficacement contre la poliomyélite. Niembo de Salima, bonjour.
Oui, bonjour Marie-Chantal, bonjour à tous les auditeurs qui vont participer après mon information.
Oui, Niembo, dites-nous à votre avis, que faut-il faire pour lutter efficacement contre la poliomyélite?
Oui, ce que moi je peux proposer, ici c'est nous, nous voyons quand même les médecins, depuis les 3 médecins, avec tous les quartiers possibles qu'on commence à donner les médicaments qu'on appelle les polio pour lutter avec cette maladie qu'on appelle la poliomyélite. Parfois, ils donnent les enfants avec les vitamines A, d'autres donnent avec les mébendazole qu'on appelle les fermoxes pour faire contre à cette maladie. Nous remercions quand même les santé qui organise cette organisation pour quand même protéger nos petits frères, nos enfants, dans tous les âges différents de nos petits frères quand même à cette maladie qu'on appelle la poliomyélite.
Oui, mais Niembo, comme peut-être vous avez appris, la poliomyélite, c'est vrai que la vaccination, c'est une des méthodes préventives, mais comme on le dit, cette maladie se transmet souvent par des contacts humains, notamment lorsqu'on boit de l'eau qui est contaminée, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que la vaccination elle-même peut suffire de pouvoir lutter efficacement contre cette maladie?
Oui, ça peut aider parce que depuis que moi je suis à Kalima, j'ai vu seulement un seul garçon de 5 ans et cette maladie aussi attaque surtout à cet âge. Les enfants du moins de 5 ans et du moins de 10 ans, madame, ça, cette façon pourra quand même aider pour que les enfants n'aient pas cette maladie qu'on appelle la poliomyélite.
Oui, peut-être que Niembo, vous n'êtes pas au courant, par exemple au Congo, Brazzaville, le Congo voisin, nous avons appris qu'il y a des adultes aussi qui ont été contaminés par la poliomyélite. Merci Yembo. Pour vous, vous pensez qu'il faut vraiment respecter la vaccination. Nous vous remercions pour votre intervention.
Oui, Marie Chantal. Ici, chez nous, à Kalima, on ne constate pas le cas de surtout seulement aux enfants que nous voyons seulement.
Merci beaucoup, Yembo, pour votre intervention.
Parole aux auditeurs.
Notre invité a fait son entrée dans ce studio. Il s'agit du docteur Tchimbélé. Bonjour, docteur.
Bonjour, madame.
Je rappelle que vous êtes coordonnateur national du programme Élargie de vaccination. Plusieurs chiffres que nous avons reçus, d'ailleurs, la semaine dernière, le ministre de la Santé a donné un point de presse concernant cette résurgence des cas de poliomyélite. Quand même, à votre avis, en tant que coordonnateur national, on dit qu'il y a plusieurs cas, à peu près 63 cas. Il y en a eu 50 qui ont été signalés dans le Kasaï occidental, 9 dans le Bandundu, 3 dans le Katanga, 1 cas au Sud-Kivu. Mais aussi, il y a des nouveaux cas suspects, parce que l'on n'a pas encore confirmé, qui ont été signalés à Badolit et à Molegbe dans l'Équateur, sans oublier aussi les cas suspects à Kikwit dans le Bandundu. En tant que coordonnateur national, quelle est votre réaction au regard de cette résurgence de la poliomyélite en RDC?
Oui, merci madame pour l'occasion que vous nous donnez pour faire cet échange. Avant de donner mon avis, j'aimerais rappeler aux auditeurs ce que c'est que...
Nous allons arriver à cela, mais quand même vous êtes un expert, vous connaissez le danger de la poliomyélite, parce qu'on dit qu'un seul cas peut contaminer 199 ou 200 cas. À votre avis, regard de cette résurgence, quelle est votre réaction en tant qu'expert et aussi médecin?
Oui, notre réaction, c'est celle que nous sommes en train d'appliquer, que vous êtes en train de voir, c'est-à-dire c'est la riposte, hein, à l'apparition de ces cas de PVS. Nous devons riposter, c'est pour protéger le reste de la population.
Est-ce que c'est inquiétant, autant de cas quand même à travers le pays au cours de cette année?
C'est inquiétant, parce que c'est pas une situation normale. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un temps assez long, de 2000 jusqu'à 2005, on n'a pas vu un seul cas de poliovirus sauvage. Mmh. Et cela est apparu à partir de l'année 2006, qui était le tout premier cas, était un cas importé de l'Angola. Mmh. Et depuis lors, ça n'a pas cessé d'apparaître. Mmh. Et pour la plupart des cas, ce sont des cas de l'Angola. C'est pas l'Angola qui les envoie comme tel.
Donc, c'est le mouvement des populations.
C'est le mouvement des populations qui fait que on importe ce virus-là.
Mais aussi, avant de savoir comment est-ce que vous comptez riposter face à ce poliovirus, vous pouvez nous faire en fait nous donner un peu, nous cerner un peu cette maladie qui rend infirme, donner plus de précision dans la transmission, mais aussi rappeler certaines choses que peuvent avoir en tête les habitants de la RDC pour pouvoir lutter efficacement contre cette maladie.
Oui, merci madame. Bon, la poliomyélite comme maladie, c'est effectivement une maladie comme toute autre maladie. Comme le paludisme, comme la tuberculose.
Vous pouvez vous rapprocher du micro pour que nos auditeurs puissent mieux vous suivre.
Ok. Alors, je disais que c'est une maladie, parce que ça s'appelle maladie, donc c'est une maladie comme toute autre maladie. Et chaque maladie a ses spécificités, bien sûr. Donc, c'est-à-dire en termes de manifestation, en termes de finalité, hein, de la maladie, donc chaque maladie a ses spécificités. Alors, qu'en est-il de la poliomyélite? C'est une maladie infectieuse. Quand nous disons infectieuse, c'est parce que c'est une maladie qui est due à un microbe. Et le microbe en question fait partie des virus. Donc c'est une maladie infectieuse virale. Ok. Et il y a un mode de transmission qui est fécoral. Quand nous disons fécoral, c'est-à-dire à partir des selles infectées. Hein? on peut s'infecter à partir de la bouche alors.
Donc on peut classifier cela, cette maladie parmi les maladies de main sale.
Tout à fait. C'est très bien, parce que vous comprenez déjà, je suis très content. Donc, à partir de son mode de transmission, hein, les populations doivent savoir quelles sont les mesures préventives pour éviter la contamination. Parce que éviter la maladie, c'est éviter sa contamination.
Mm-hmm.
C'est casser la chaîne de contamination. Ok.
Mm-hmm.
Et les manifestations, comme nous le savons, c'est d'abord, en premier temps, une maladie, comme toute maladie virale, elle est souvent au début confondue à une simple grippe.
Mm-hmm.
Okay. Et la grippe, c'est nous aussi, comme habituellement, elle est associée au paludisme.
Paludisme.
On commence à soigner le paludisme.
Donc on a des fièvres.
Voilà, mm-hmm. On a des fièvres, des courbatures, peut-être un peu de diarrhée qui s'accompagne, etc. Et la maladie, comme toute maladie, évolue selon le temps.
Oui.
Okay. Et l'évolution, c'est quoi? L'évolution est que le virus qu'on a pu ingérer par la bouche,
oui.
Okay, il suit le tube digestif. Okay, et les virus ont tendance à rester longtemps, pendant un temps.
Ça peut prendre combien de temps?
Bon, ça dépend, hein, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Et dans l'évolution,
mm-hmm.
Le virus, à partir de la circulation sanguine,
mm-hmm.
Le virus peut atteindre la moelle épinière.
Oui, alors, quels sont alors les premiers symptômes, si on peut dire, pour confirmer qu'effectivement c'est un cas de poliovirus?
Oui, le premier symptôme, oui,
du poliovirus.
Oui, le signe spécifique, c'est la paralysie. Hein, des membres, une paralysie flasque aiguë, des membres, ça peut être les membres inférieurs, tout comme ça peut être et les membres inférieurs et les membres supérieurs. Hein.
Donc le poliovirus s'attaque aux muscles. Mais dites-moi alors, quand est-ce qu'un enfant, par exemple, qui a des fièvres, quand il va à l'hôpital, comment est-ce qu'on peut savoir s'il s'agit du poliovirus ou pas, ou s'il s'agit d'une simple malaria ou paludisme ou autre chose? Est-ce que vraiment nos hôpitaux, pour l'instant, peuvent facilement, à partir du moment où l'enfant fait la fièvre, savoir si c'est un cas de poliovirus en évolution ou si c'est autre chose?
Oui, effectivement, c'est une très bonne question parce que malheureusement, à ce niveau-là, on ne peut pas dire qu'il s'agit de la poliomyélite. Ok? Donc, on traite
les
symptômes. On traite la fièvre, on traite les cils, etc. On ne peut pas dire.
On ne peut pas s'imaginer.
Voilà. Parce que, effectivement, les signes spécifiques apparaissent plus tard.
Donc, si par exemple, dans votre milieu, vous avez constaté qu'il y a un enfant qui a souffert de la poliomyélite, à ce moment-là, ça peut donner un peu la puce à l'oreille au médecin.
Tout à fait. Et quand nous avons un cas comme ça de paralysie, dans les investigations, nous reculons en arrière. La maladie a commencé comment, etc. Vous verrez que quelque part, il y a toujours cette notion de fièvre.
Oui, nous allons suivre nos auditeurs pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent, parce que là vous avez un peu expliqué comment l'évolution de la maladie, donc la population a un rôle à jouer dans la prévention, comme vous avez dit que c'est une maladie des mains sales. Nous allons écouter Polybé de Kindou, Eri de Goma et Hubert de Bukavu, savoir quelles sont leurs propositions pour un comportement responsable face à ce poliovirus et surtout face au cas des résurgences des cas de poliomyélite dans notre pays.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Polybé.
Bonjour madame.
Et que proposez-vous pour lutter efficacement contre la poliomyélite?
En tout cas, moi je propose beaucoup de choses. Je propose beaucoup de choses. Mm-hmm. Le mode de transmission de la poliomyélite sauvage expose presque tout le monde. Alors, comme tout le monde est exposé, et que tout le monde peut tomber malade arrêt à tout moment, nous disons que l'essentiel, c'est d'abord de protéger à la fois et ceux qui sont tombés malades et ceux qui ont été victimes de la maladie. Donc, nous commençons à constater que les victimes de sida, donc les sida en soi,
on fait tout pour arrêter le sida, et en même temps, ceux qui ont ramassé le sida par-ci, par-là, sont également protégés et reçoivent quelque chose. Malheureusement pour les gens qui sont handicapés, parce qu'ils ont été appelés par la poliomyélite, ils ne sont pas pris en compte. Ils sont des laissés pour compte. Alors, je vais proposer, premièrement, que les gens qui sont victimes de la poliomyélite soient protégés au même titre que la maladie. On tient plus compte de la maladie, donc c'est par contre des gens qui en ont déjà été.
Oui, qui sont déjà infectés.
Oui, les gens qui sont déjà infectés.
Et comment faire pour protéger ceux qui ne sont pas encore infectés? Quelles sont vos propositions?
Ce qu'il faut, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est la vaccination de routine. Mais dans cette vaccination, il y a à boire et à manger. Bon. Pourquoi ne peut-on pas prendre les étudiants de la médecine, les élèves de l'ISTEM et même quelques étudiants de l'ISTEM pour faire d'eux des vaccinataires? On prend n'importe qui, chaque médecin prend un groupe de professeurs et un groupe d'amis et on fait d'eux des vaccinataires qui ne connaissent rien, qui ne savent pas sensibiliser la population. Voilà pourquoi on sert à des problèmes comme quoi mon fils ne sera pas vacciné. Oh, ma fille, je ne serai jamais faire vacciner ma fille. C'est parce que ceux qui vont à la vaccination ne sont pas informés. Il fallait quand même donner aux étudiants les goûts. Quel étudiant qui est en premier graduat et qui est vaccinateur, vous voyez qu'il a les goûts. Et ces goûts-là pourront le pousser très loin. Et en plus de cela, il fallait encore réhabiliter les centres pour handicapés. Nous avons un centre pour handicapés à Kino, Martin Mofawot, qui est devenu un local, je ne sais pas, qui sont des auditoires. Hein? Les petites salles qui sont là sont devenues des auditoires pour les centres. Vous imaginez. Donc, les personnes vivant avec handicap sont des laissés pour compte. On fait tout pour lutter contre la poliomyélite. Et on laisse de très loin les victimes de la poliomyélite.
Merci beaucoup pour l'idée. Vous pensez qu'il faudrait mener des actions non seulement pour protéger, pour prévenir les personnes qui sont encore saines, qui ne sont pas atteintes de la poliomyélite, mais aussi prendre en charge les victimes de la poliomyélite et vous aussi vous encourager le fait que les structures qu'on organise des campagnes de vaccination, qu'on puisse vraiment intégrer les étudiants en médecine ou bien même les étudiants à l'ISM, donc les personnes qui vont devenir plus tard des médecins ou infirmiers. Merci Polybé de Kindou. Bonjour Eri.
Bonjour madame.
Eri, on vous écoute. Que proposez-vous?
Un point de vue contraire à celui que vient de faire l'auditeur de Thomas Pétiobé. Je veux aussi donner ma particularité. Je dis ceci pour faire lutter contre la poliomyélite. C'est d'abord une maladie, comme l'a dit l'invité aux antennes, mais je pense que le fait pour la poliomyélite soit remarquée manifestement, s'il s'agit de telle maladie, n'est qu'une conséquence de ce qui n'a pas été d'abord préalable fait par ceux qui sont au courant des faits, c'est-à-dire les médecins, ceux qui sont chargés de, entre autres, le ministre et de la santé publique.
Mais pour l'instant, nous avons ces cas de poliomyélite. À votre avis, que font-ils faire si c'est vrai que peut-être que vous pensez qu'il n'y a pas eu un encadrement assez propice ou il n'y a pas eu assez. On n'a pas mis un accent pour pouvoir éviter ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous proposez actuellement au regard de ce qui se passe dans nos provinces pour lutter contre la poliomyélite? Parce qu'on dit qu'un enfant atteint peut contaminer autant, presque 199, près de 200 enfants. Donc peut-être qu'à Goma, on n'a pas encore eu un cas de poliomyélite, mais ça peut arriver au regard du mouvement de la population.
Moi, je pense que la campagne qui a été amorcée de la vaccination, c'est vraiment un moyen pour lutter contre ça, mais je ne peux pas faire ici chez nous, par exemple, personnellement, il y a des enfants qui seraient effectivement vacciner, mais il y a le papa qui a dit non, c'est une, il n'est plus question de le vacciner. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord un vaccin qui a été fait lors de l'accouchement de sa maman, qui est aussi ma mère, et aussi après le temps, il y en a eu d'autres. Mais aussi, il y a les gens qui font ce genre de campagne, qui ne sont pas complètement des médecins. Vous allez dire, parce que c'est quelqu'un du quartier, on le prend, on dit non, avec vous, nous devons faire cette campagne. Je pense qu'on peut évoluer avec cette vaccination, mais il faut chercher les gens qui sont du domaine.
Et là, vous voyez seulement du côté vaccination, mais comme l'a expliqué le médecin, qui est coordonnateur aussi du programme national de PEV, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une part de la population, comme c'est une maladie démentielle?
Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est une maladie de l'infâme. C'est pourquoi je vous ai dit que ce serait d'abord un problème à prévenir. Quand vous dites que ça provient de l'eau qui n'est pas du tout propre, est-ce que vous voulez assez que, par exemple, un habitant qui habite les fins fonds de la ville province, de la ville de Goma, si assez qu'il est délémé dans les plats de bâtiment, là, les mêmes personnes qui doivent, n'est-ce pas, faire la campagne par rapport à ça, ils doivent dire aux indigènes du village qui sont éloignés de la ville, que voilà, je vois ce que vous devez faire pour que vous ne puissiez pas contaminer
une personne. Donc une sensibilisation de la communauté par le personnel de santé.
Je pense.
Merci beaucoup, Eric de Goma, pour votre participation. Hubert, bonjour.
Bonjour Madame Chantal, bonjour à tous les auditeurs de votre radio.
Vous avez suivi vos prédécesseurs, que voulez-vous ajouter de plus par rapport à leurs propositions?
Merci beaucoup pour l'occasion. Moi je voudrais dire ceci, je pense que si le gouvernement organisait une très vaste campagne de sensibilisation au bénéfice de la population, intérêt sur le territoire pour lutter contre les maladies mentales, ce serait la première chose à faire, mais le gouvernement devrait le faire en collaboration avec les confessions religieuses, les organisations gouvernementales internationales, ainsi que les organisations locales de développement. Et à part ça, je pense que si le gouvernement doté à ces services qui sont chargés de l'hygiène publique à nos frontières, dans nos ports, et dans nos aéroports, pour le moyen de contrôler les voyageurs qui n'ont pas de carte attestant leur vaccination contre la polio, ce serait aussi une mesure préventive. Ainsi que si il formait les agents de ce service qui a la l'hygiène publique dans ses attributions, afin qu'ils vaccinent ceux qui veulent entrer s'ils n'ont pas les cartes qui étaient suffisants de vacciner à partir de chez eux, ça serait aussi protéger la population. C'est ma proposition.
Merci beaucoup Hubert. Là, un point quand même que vous avez soulevé, le contrôle des cartes de vaccination à l'entrée en RDC. Merci encore une fois. Nous allons à Guémena où se trouve MG. Bonjour.
Ah, bonjour madame. Bonjour à tous les auditeurs.
Oui, c'est MG. On vous écoute. Que proposez-vous pour lutter efficacement contre la poliomyélite?
Ok, d'après ce que l'invité vient de dire, c'est une maladie qui peut infecter toute une ville ou bien tout un village. Quant à moi, j'aurais proposé ceci. Il faut qu'on organise des services de suivi pour la vaccination. Parce qu'il y a des parents qui ne veulent même pas faire vacciner les enfants, surtout dans notre milieu. C'est ça que je voulais dire.
Merci beaucoup, Mégé. Donc, suivre, savoir si réellement les enfants ont été vaccinés ou pas, et voir comment convaincre les parents qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. Merci Mégé. Nous allons prendre Placide, ce sera le dernier de cette première série, avant que nous puissions donner à nouveau la parole à notre invité, le docteur Kembélé. Placide, on vous écoute.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi et ceux qui vont faire l'émission. Bien, en fait, moi j'ai une seule proposition pour résoudre cette affaire de la polio. Mm-hmm. Je pense que j'ai réfléchi plus comme étant économiste de développement, en ce sens que je ne voudrais pas plus m'atteler sur l'aspect médical, l'aspect en fait de soigner la polio. Pour moi, je pense que s'il faudrait bien résoudre ce problème de polio, il faudrait résoudre les causes et non les effets. Parce que la vaccination, telle qu'on venait de citer les effets qui m'ont précédé, ce n'est qu'une solution éphémère. Parce que le grand problème, vous allez être d'accord avec moi, que ce sont les déplacements, les mouvements des populations qui continuent à nous apporter certains éléments de polio sauvage. Voilà, pour moi, je pense que le problème se situe au niveau du ménage. Le ménage qui, en fait, est la première unité de production d'un État, d'autant plus qu'elle fournit à l'État un facteur de production de travail. C'est-à-dire que c'est la population qui prépare à l'État les ouvriers et les travailleurs. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que la plupart des fonctionnaires de l'État n'ont plus de travail. L'autorité du ménage, qui est censée prendre en charge le ménage, n'est plus à mesure de l'affaire. Voilà maintenant ce qui en découle. Ce qui en découle, les enfants ne sont plus sous la direction de leur papa, faute de moyens. Ils cherchent à aller par-ci, par-là, pour essayer de survivre. Vous allez voir que la plupart des jeunes se déversent dans les carrières. Là, ici, à l'Angola, par exemple, partout d'ailleurs, où le système de santé n'est pas tout à fait maîtrisé. Il y a cet effet de la vérification des cartes de vaccination. Oui, ça, c'est bien. Mais je pense, comment vous allez le faire quand vous n'avez pas encore résolu le véritable problème qui est le ménage qui est dans le constitu. Donc, pour moi, je vais demander plus à l'État un rôle responsable de pouvoir remettre au ménage le pouvoir qu'elle avait. Je me dis, il y a beaucoup d'années passées, je n'ai jamais appris de la polio au Congo. Le Congo a commencé à proclamer la polio il n'y a pas plus tard que 15 ans passés, parce que déjà le ménage avait un problème. Voilà un peu ma proposition.
Mais quand on vous dit par exemple que le poliovirus, la poliomyélite, c'est une maladie des mains sales, on vous demande de laver les mains, à ce moment-là, vous allez aussi demander au gouvernement de pouvoir vous aider à faire cela?
Bien, en fait, là, vous voyez que nous voulons déjà les conséquences. Les conséquences, c'est quand déjà le virus est à la disposition de la population. Ça sera correct. Une école de sensibilisation sanitaire ou médicale qui va mobiliser la population et que la population a se laver les mains. Parce qu'il n'y a pas que la polio qui est une maladie de mains sales. Il y a le choléra, il y a encore beaucoup d'autres bactéries qui sont transmises à travers cette pratique-là.
Merci beaucoup, Placide, pour votre intervention. Vous pensez qu'il faudrait attaquer tout d'abord les causes.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Et dans ce studio, nous avons invité pour vous le docteur Chimbélé, le coordinateur national du programme élargi de vaccination. Docteur, vous avez suivi nos auditeurs, ce qu'ils pensent pour pouvoir lutter contre cette maladie, mais quand même avant que vous puissiez réagir aux avis, aussi aux propositions de nos auditeurs, il faudrait quand même qu'on souligne que cela fait près de plus de 10 ans que la RDC connaît des campagnes de vaccination contre la poliomyélite, sans oublier aussi la vaccination de routine. Je connais chaque zone de santé où on introduit bien sûr aussi le vaccin contre la poliomyélite. Et aussi, il est vrai, comme vous l'avez signifié au début, que la poliomyélite avait été stoppée de 2001 à 2005. Et ce virus, on l'a encore réintroduit en 2006. C'était, comme vous l'avez souligné, à partir de l'Angola. Et depuis lors, la poliomyélite est devenue, si on peut dire, chaque année, on dépiste un cas de poliomyélite. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait de plus? Parce qu'il y a déjà la campagne de vaccination, les campagnes de vaccination qui existent. Il y a déjà la campagne, la vaccination de routine qui est mise en place. Mais qu'est-ce qui peut être fait de plus?
Oui, madame Permettez que je résume en quelques mots les différentes interventions des auditeurs. Et nous allons arriver à ce que nous pensons effectivement faire pour que nous puissions stopper la circulation de ce virus. Bon, j'ai noté parmi les différents intervenants, et ils ont cerné dans leur solution trois niveaux. C'est-à-dire, il y a des interventions qu'il faut mener à plusieurs niveaux, notamment dans la population. Deuxièmement, au niveau des structures de santé. Et troisièmement, on a donné la responsabilité à l'État, donc au gouvernement, d'une manière générale. Donc, concernant la population, j'ai noté avec satisfaction que les auditeurs ont parlé de la vaccination. Ils reconnaissent que la vaccination, c'est quand même un mode de lutte contre la maladie. Mais on a proposé que cette vaccination puisse être réalisée par un professionnel de santé au lieu que ce soit fait par n'importe qui. Là, j'ai réagi immédiatement pour dire que, effectivement, la vaccination est c'est un acte qui est fait par le personnel de santé dans toutes les structures. Il y a une particularité quand nous menons des campagnes de vaccination contre la polio. Il n'est pas ici vraiment nécessaire que un personnel de santé puisse être vaccinateur lors des campagnes. Pour raison, pour cause, premièrement, donner deux gouttes, je dis bien deux gouttes, de vaccin à un enfant, à partir d'un flacon, il ne faut pas être spécialiste pour ça.
Peut-être que la population a besoin d'être rassurée lorsqu'on voit une personne qui est peut-être en première graduée en médecine qui pose cet acte. C'est plus rassurant que lorsqu'on voit peut-être son voisin qui est menuisier ou je ne sais pas, qui est dans un autre domaine que la santé qui le fait.
Oui, c'est possible. Hein? C'est possible parce que les auditeurs qui l'ont abordé dans ce sens, certainement c'est ça leur préoccupation. Mais moi je réagis toujours parce que les vaccinateurs que nous envoyons, lors des campagnes, nous ne leur donnons pas une étiquette par rapport à leur profil.
Mais tout le monde connaît tout le monde, hein, parce que les vaccinateurs, ce sont les gens plutôt du milieu.
Oui,
on
ne
va pas prendre quelqu'un de Bandundu pour vacciner à Kinshasa ou à Sinoussi qui se connaissent.
Tout à fait. Ok, je continue, madame. Alors, à ce niveau-là, d'une manière générale, qu'est-ce que nous faisons les équipes qui, généralement, sont constituées de deux personnes. Il y a toujours celui que nous appelons vaccinateur, qui, lui, en tout cas, c'est un professionnel de santé. C'est un professionnel de santé. Et l'autre qui l'accompagne, en fait, c'est celui que nous appelons un mobilisateur. Donc lui, pendant qu'on est en train de vacciner, pendant qu'on est en train de passer d'un ménage à l'autre, il donne l'information, il explique le pourquoi, et il dit même s'il y aura une deuxième phase de la campagne, c'est lui qui annonce. Hein. Lui parle avec les parents pendant que l'autre
administre
le vaccin. Dès qu'il a terminé, il coche sur un outil de collecte de données, etc. Donc, généralement, c'est comme ça. Alors, troisièmement, nous prenons les gens, ce monsieur-là qui accompagne en fait le professionnel de santé, qui est considéré comme un mobilisateur, un sensibilisateur, il doit nécessairement être quelqu'un du quartier, qui est connu, et qui parle tous les jours avec les gens, et dès qu'il arrive dans une maison, l'équipe est reçue avec confiance. Ouais. Donc, vous voyez les choses en positif.
Ça, c'est ce qui est déjà passé. On essaie un peu d'évoluer à l'envi. Comme je vous l'ai dit, il y a plus de 10 ans qu'il y a eu ces campagnes de vaccination. Une polio a disparu et puis il est réapparu. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait de plus? Parce que campagne de vaccination, il y en a. Les vaccinations de routine se poursuivent. à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait de plus?
Ok, merci. Ce qui peut être fait de plus a été abordé d'une manière ou d'une autre par les intervenants qui ont parlé. Pour nous, c'est d'abord renforcer cette vaccination de routine. Ok? Et la renforcer, c'est quoi? Nous, c'est-à-dire nous, les responsables de l'organisation de la vaccination de routine, hein? Nous mettons tout ce qu'il faut mettre comme ingrédients, comme structure à la disposition de toute la population pour que les mères amènent leurs enfants à la vaccination. Maintenant, la grande question, c'est de savoir est-ce que toutes les mères amènent leurs enfants à la vaccination. Un auditeur l'a dit. Il y en a qui pensent que la vaccination, ça ne sert à rien. Ceci, on a vacciné deux fois, et puis, etc., etc. C'est-à-dire que le moment...
Il y a même d'information.
Oui, quelque part, il y en a qui ne comprennent pas. Alors, par rapport à cela, il y a lieu de renforcer la communication dans la population pour arriver à sensibiliser les populations qui doivent savoir que la vaccination, c'est vraiment capital, c'est important.
Il y a par exemple cet auditeur qui pense que plusieurs fois, le fait qu'on puisse chaque fois donner des vaccins à répétition, est-ce que c'est nuisible? C'est erré. Est-ce que c'est nuisible à la santé? Parce qu'on a reçu tout juste au moment de l'accouchement, quelques semaines après l'accouchement, il y a autant de campagnes de vaccination. Est-ce que ce vaccin est nuisible quand on le reçoit à répétition?
Non, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout nuisible. La preuve est que depuis que nous avons commencé à le faire, comme vous dites, il y a plus de 10 ans, effectivement, on n'a jamais enregistré un cas qui puisse être lié à cette répétition-là. Les scientifiques savent que quand on donne une dose, hein, après un temps tel, l'organisme est capable d'éliminer et de conserver l'essentiel pour
une dernière question avant de revenir au contrôle de nos frontières, les cartes de vaccination, si vous avez pensé aussi à cela. Est-ce que vous pouvez donner des précisions à un enfant qui a été atteint du poliovirus? Il reste contagieux jusqu'à combien de temps? Parce que là aussi, c'est une crainte. Si dans votre village, on a constaté qu'un enfant souffre de la poliomyélite, pendant combien de temps, par exemple, le virus peut-il rester virulent?
Oui, le virus reste virulent pendant le temps pendant la période d'incubation, hein, qui va de 7 jours à 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 maximum, hein. C'est pendant la période d'incubation que le virus reste
virulent. Donc, c'est dans cette période-là que l'enfant peut contaminer le plus de personnes possible. Et cette question de carte de vaccination, est-ce que c'est possible de pouvoir instaurer cela, surtout au niveau de nos frontières?
Bon, c'est possible. Sur le plan pratique, on peut le faire comme on l'a fait pour les autres vaccins. Mais cela ne dépend pas seulement d'un pays. C'est tout un règlement sanitaire international qui existe, hein, et qui, selon la maladie, selon le mode de propagation, selon ceci, etc., qui décide que non, cette maladie désormais deviendra une maladie quarantenaire, c'est-à-dire pour traverser d'un pays à l'autre.
Non, regarde la situation de la RDC, est-ce que vous ne pensez pas que c'est nécessaire? Par exemple, au Congo-Brazza, on dit que le polio attaque même les adultes.
Oui, c'est ce que je disais. Ça ne peut pas dépendre seulement de la RDC, tout comme ça ne peut pas dépendre seulement du Congo, de la République du Congo en face. Oui, ça c'est internationalement parlant, ça doit d'abord être accepté au niveau international, hein, parce que là il y a des études qui vont être faites, des analyses, voir les avantages, voir les soucis, etc.
Nous allons écouter les autres auditeurs, Emmanuel et Justin, sans oublier qu'il y a des auditeurs aussi qui nous ont écrit à travers pa@radiocatif.net.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Esaïe.
Oui, bonjour madame.
Oui, quelles sont vos propositions pour lutter efficacement contre la poliomyélite?
Oui madame, le médecin vient de parler de mode de transmission de la maladie appelée poliomyélite. Il a bien dit que la transmission est orofécale. C'est bien. Et puis en plus, il a parlé des méthodes de traitement. C'est la seule méthode à retenir, c'est la méthode préventive. Mais en ce qui concerne notre province du Sahara occidental, ce que nous avons constaté, c'est que les campagnes de vaccination sont en place, mais le personnel n'est pas formé. Justement, le personnel n'est pas formé parce qu'on prend les connaissances du quartier qui sont sensibilisées, ils vont dans les campagnes de vaccination. Alors, les mamans qui viennent avec les enfants au centre de santé ne sont pas sûrement éduquées, elles ne prennent seulement que le vaccin, alors qu'ils ne connaissent pas la maladie pour laquelle elles prennent le vaccin. Donc, l'auditeur qui a parlé de l'influence du personnel a justement dit ce qu'il fallait dire, parce que quand on vient avec quelqu'un du quartier qui ne connaît rien de médecine, qui ne connaît rien de médical, alors qu'il va vacciner, il n'éduque pas la maman qui vient avec l'enfant. Les mamans ne connaissent ni le mode de transmission, ni n'importe quoi qui concerne la maladie. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est la mobilisation du personnel, la formation du personnel. En plus de la formation du personnel, aussi connaître les mesures et bien sensibiliser, organiser des séminaires dans des centres spécialisés, dans des hôpitaux, pour que d'autres personnels soient bien formés.
Merci, Esaïe de Kananga. Plus de sensibilisation, plus d'informations, surtout pour les mamans, qu'elles puissent savoir qu'est-ce qu'elles reçoivent, qu'est-ce qu'on donne à leurs enfants, et aussi quelles sont les conséquences et comment on peut être atteint de cette maladie. Merci encore une fois, Esaïe. Bonjour, Emmanuel. Nous avons perdu Emmanuel de Maragui. Nous allons prendre Justin. Non, monsieur Cynthia Emmanuel est toujours au bout du fil. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour à la radio Kati.
Et on vous écoute, Emmanuel.
Moi, je commence d'abord à saluer tous les journalistes de la radio Kati.
Merci.
Et puis, je salue cette idée-là du ministre de la Santé. Si c'est cette maladie appelée la poliomyélite, en tout cas, dérangée surtout nous de l'Est. Alors, quand on a commencé avec ces programmes de la vaccination, le taux de mortalité, surtout de ces enfants-là, a diminué. Il y a d'abord ce qu'il faut, surtout beaucoup, c'est la sensibilisation et puis la formation.
Vous pensez qu'il faut renforcer la sensibilisation, aussi la formation, comme l'a dit Esaïe, et vous avez vous-même constaté qu'avec la vaccination, on peut quand même arriver à maîtriser la maladie. Emmanuel, merci. Le temps de prendre André aussi et Justin, parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est comme si on n'a pas assez de temps, pourtant chaque jour, nous avons plus de 50 minutes. Merci Emmanuel. Bonjour André.
Bonjour madame.
Oui, vous êtes à Kisangani. Quelles sont vos propositions?
Oui, j'ai deux niveaux de propositions. Le premier niveau, c'est au niveau des autorités politiques. Et là, je vois, la première chose, c'est qu'ils doivent lutter pour que la paix soit au pays. Puisque par manque de la paix, on trouve que les vaccinateurs sont limités dans leur mouvement de vaccination et ils n'atteignent pas tous les niveaux. Et c'est ce qui s'est passé pendant la guerre. Deuxièmement, c'est la sensibilisation. Ils doivent sensibiliser la population de l'importance de la vaccination. Troisièmement, c'est le suivi des activités. Bien sûr, c'est programmer les activités de vaccination, c'est une chose. Deuxièmement, mais il faut les suivre. Il faut savoir est-ce qu'ils ont vacciné ou pas. Et surtout dans la même autre idée, c'est il faut payer aussi les médecins. Plus les médecins ne sont pas très bien payés, vous savez, c'est qu'ils paient, c'est suivre après. Alors, deuxième niveau, c'est les autorités sanitaires. Quand vous voyez un médecin chef de zone avec son équipe cadre des zones de santé en train de forcer le résultat de la vaccination, c'est un problème. Pourquoi vous ne pouvez pas utiliser en bon escient le fonds mis à leur disposition, puisqu'ils ont voulu prendre beaucoup d'argent et ils forcent le résultat. Et ça, c'est partout dans la République démocratique du Congo, c'est une monnaie courante. Et de deux, pour terminer, c'est le manque de l'amour du pays par ces gens qui font le magouille dans le fond qu'on met à leur disposition. Et surtout, le non-respect des déontologies de leurs métiers respectifs. Voilà ce que je pouvais vous dire, merci.
Merci André de Kisangani. Nous prenons directement un auditeur de Mbujimayi, Justin. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Oui, on vous écoute. Quelles sont vos propositions? Vous avez suivi André de Kisangani. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
J'ai des propositions à faire. La première, c'est qu'il faut en tout cas étendre la campagne de sensibilisation sur toute l'étendue de la République. Puisque j'ai suivi le journal Radio RPGA, on a dit bon, il y a encore certaines personnes à Bandundu qui refusent qu'on puisse vacciner leurs enfants. En tout cas, c'est dommage ça. Et deuxième proposition, il faut aussi éduquer madame et la population. Hein? Puisque ce n'est pas possible qu'une personne bien éduquée puisse défecter dans la voie publique. L'État ici chez nous. Voilà un peu les deux propositions en tout cas.
Merci Justin de Mbujimayi Zakari. Ce sera notre dernier auditeur de cette émission. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour, bonjour Radio Kassou.
Oui, vous êtes à Kindu, vous nous suivez sur 103.0 MHz. Quelles sont vos propositions?
Ok, j'ai une proposition, mais la proposition, c'est que j'ai reçu une question. Oui, ma question est celle-ci. J'ai constaté dans beaucoup de fois, là où je passe, surtout dans des centres hospitaliers, il y a des enfants qui ont été vaccinés contre la poliomyélite. Mais nous avons des conséquences négatives qui se produisent. Il y a des paralysies, des cas de malformation des membres. Et puis quand on regarde l'origine de ça, c'est la méningite qui est à la base de ça. Alors, j'avais une question qui concerne surtout ceux qui sont spécialistes en matière de médecine, et surtout à notre invité d'honneur, est-ce que si la vaccination contre la poliomyélite peut lutter aussi contre les méfaits de la méningite?
On voudrait avoir plus de précision. Vous avez dit qu'il y a des enfants qui ont reçu le vaccin contre la poliomyélite, mais qui ont souffert de méningite.
Ok, effectivement, et puis ça provoque une malformation très forte et puis parfois la paralysie. Alors, je ne sais pas si la vaccination contre la poliomyélite peut lutter aussi contre les effets de la méningite.
Ok, nous avons notre médecin qui est avec nous, c'est notre invité. Il est médecin, mais aussi coordinateur national du programme élargi de vaccination. Docteur Chimbélé, vous pouvez répondre à notre auditeur Zachary qui a une préoccupation. Il voudrait savoir si, en recevant un vaccin contre la polio, on peut faire de la méningite.
Merci pour la question. Le vaccin contre la polio ne peut pas occasionner la méningite. Mais j'ai compris la question comme si l'auditeur voulait savoir si en vaccinant l'enfant on peut prévenir la méningite. Bon. Je pense que c'est l'inverse.
Bon, Zachary, je pense qu'il est toujours au bout du fil, Zachary. Zachary? Oui, Zachary, voilà le médecin. Il va poser la question si c'est, on peut prévenir. Votre préoccupation, c'est de prévenir la méningite par le vaccin de la poliomyélite. C'est aussi ça un aspect de votre question?
Oui, c'est ça la question, puisque à l'est et à l'est de la République, ce sont les cas de méningite qui se manifestent, c'est beaucoup plus. Et cela amène beaucoup de répercussions sur les enfants de 0 à 5 ans.
Voilà, docteur.
Ok, merci Zachary pour la précision. Bon, je pense que vous comprenez que, déjà d'emblée, vous comprenez que c'est non. Parce que, comme nous avons dit, chaque maladie a ses spécificités. Nous avons dit que la poliomyélite est une maladie comme les autres maladies, dont la méningite. Hein? Donc la méningite, c'est une maladie qui est tout à fait différente de la poliomyélite. Mm-hmm. Alors, puisqu'on ne peut pas prévenir la méningite avec le vaccin contre la polio, il existe le vaccin contre la méningite, que nous donnons d'ailleurs avec notre système de vaccination de routine, que nous donnons aux enfants. Mmh. Il y a le vaccin qui contient 5 antigènes, dont le diptécoque, donc le même vaccin lutte contre 5 maladies. Mmh. Hein. Le
diptécoque, c'est contre la dystérie.
Oui, dystérie,
coqueluche,
tétanos, et les infections qui sont dues à. Aux infections influenzaires. Hein. Donc, c'est parmi ces infections-là, il y a aussi les méningites.
Okay.
Mmh, les infections à méningites. Mmh. Et actuellement, nous sommes en train de vouloir introduire un nouveau vaccin, à partir de l'année prochaine, qui va vraiment lutter spécifiquement contre les méningites à pneumocoque. Voilà.
Parole aux auditeurs.
Et nous cheminons vers la fin de cette émission qui était consacrée dans la lutte contre la poliomyélite. Docteur, encore une fois, vous allez réagir au propos de cette dernière série d'auditeurs. Par exemple, il y a un auditeur qui nous a écrit à partir de notre adresse internet pa@radiocati.net. Pensez-vous que le nombre des vaccinateurs qui sont chaque fois envoyés sur terrain soit-il suffisant pour atteindre le nombre d'enfants compte tenu de la dimension des quartiers et des zones de santé? Docteur.
Oui, par rapport à cette question-là, je dirais très vite que c'est oui. Hein, ce nombre-là est calculé en fonction de la charge de travail. Donc, ce n'est pas par hasard que nous disons, voilà, autant de personnes pourront vacciner au cours d'une journée, autant de ménages. Ouais, c'est bien calculé par rapport à la charge du travail.
Mmh.
Deuxièmement, on l'a vu dans les résultats. Hein.
Il y a un auditeur qui pense qu'on fausse, qu'il y a des médecins qui faussent le résultat.
Oui, ça c'est un problème tout à fait individuel. Hein. Vous voyez, ça dépend d'une personne à l'autre. Hein. L'auditeur a même parlé qu'il y en a qui faussent comme ça pour qu'ils tirent l'argent de leur côté au lieu de payer
les vaccinateurs et autres choses.
C'est un comportement très très négatif de la part d'un responsable en matière de santé.
Oui, et quels sont leurs plans de riposte au regard de ces cas au cours de l'année? 50 cas, 4 occidentales, 9 dans le Bandundu, 3 au Katanga, au Sud-Kivu. Quel est le plan de riposte qui a été mis en place? Parce que le ministre a dit qu'il fallait, le gouvernement est en train de voir ce qui peut être fait, mais qu'est-ce qui est prévu?
Oui, ce qui est prévu. Premièrement, c'est ce que nous sommes en train de faire et que nous avons déjà commencé.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et que vous avez commencé?
C'est-à-dire, nous avons vacciné partout. Mm-hmm. C'est presque partout où est apparu le poliovirus sauvage. D'ailleurs, c'est presque tous les pays maintenant, hein, parce qu'il y a des régions, des parties de provinces qui ont été qui ont organisé la vaccination au mois de mai, au mois de juin,
d'autres ont commencé,
oui, Kinshasa, vous avez vu, il y avait deux passages. Alors, ce sont ces deux passages-là qui sont organisés actuellement dans d'autres provinces.
Mmh. Donc, est-ce que vous avez déjà des chiffres pour savoir quel nombre d'enfants vous avez pu atteindre?
Pour le premier passage d'octobre,
mmh.
Oui, le premier passage d'octobre, on a atteint plus de 100% d'enfants. Mais ici, j'aimerais attirer l'attention des auditeurs. Hein. Pour nous, ce n'est pas le pourcentage qui nous intéresse. Parce que, malgré ce pourcentage-là, on peut être à 110% de vaccination. Mais ça, c'est un chiffre qui est estimé par rapport à une population qu'on n'a pas recensé depuis des années. Oui. Et dans notre approche de vaccination, le souci, c'est de vacciner chaque enfant. Un enfant ciblé, tout enfant, partout où il est, nous devons le vacciner. Or, le constat, c'est que c'est assez normal. Le constat est que malgré les 110%, 100 combien pour cent, il y a toujours quelque part les enfants qui échappent, hein, avec ces parents-là qui résistent, qui font ceci et tout ça. C'est justement ce que nous ne voulons pas.
Mais quel message pouvez-vous lancer à la population? Parce que Radio Kati quand même est suivie dans plusieurs provinces de la RDC, plusieurs villes de la RDC, au regard de cette résurgence de la poliomyélite.
Merci, madame. Le grand message, c'est ce que le ministre de la Santé, le docteur Victor Makwenge, avait communiqué. Et nous tenons à répéter cela à chaque fois que nous avons cette occasion-là. Donc, le premier message est que la population, s'il vous plaît, qu'ils respectent le calendrier vaccinal de leurs enfants. Hein? L'immunité collective est très, très importante. Elle est obtenue, effectivement, quand tous les enfants dans un quartier, dans un village, ont reçu toutes les doses, hein, et autant qu'il faut.
Donc, mais concernant l'hygiène.
Concernant l'hygiène, c'est la mesure qui s'ajoute, hein, parce que, comme nous l'avons dit, c'est une maladie à transmission oro-fécale. Donc, il faut vraiment que les populations fassent d'abord un assainissement de leur milieu. Hein. On ne peut pas mettre les selles partout, on les jette comme ça, à côté du mur, des choses comme ça. Un assainissement du milieu est nécessaire et une hygiène
élémentaire
individuelle.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur Sembélé, d'avoir accepté notre invitation. Nous arrivons ici à la fin de cette émission. Nous disons que merci à tous les auditeurs, ceux qui sont intervenus et ceux qui nous ont suivis avec attention. Demain, nous aurons un prochain rendez-vous avec Parole aux auditeurs. Il faudrait dire que le mercredi, ce sera le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA. Et en prélude de cette journée, nous allons faire un état de lieu de la situation dans vos milieux et surtout faire des propositions sur des comportements conséquents adoptés face à cette pandémie. Nous vous disons merci et à demain.